BFM Business, Focus Retail, Eva Jaco.
Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Business. Nous sommes ensemble sur le salon de Vivatech pour une émission spéciale, alors que justement ce salon fête ses 10 ans cette année. Un salon qui prend de plus en plus d'ampleur avec 200 000 visiteurs qui sont attendus tout au long de la semaine. Et dans cette émission, j'aurai le plaisir de recevoir Béatrice Dotzenberg. Elle est directrice internationale des services Beauty Tech de L'Oréal. Elle nous dévoilera une actualité de taille avec OpenAI notamment, et on parlera avec elle du parcours client qui devient de plus en plus augmenté. Et puis pour le pitch de la start-up, j'aurai le plaisir de recevoir Marc Malmaison. Il est fondateur de Herman Sync. Il sera notre invité, mais on en aura d'autres puisqu'on a une case spéciale cette année qui s'appelle Le Plus, dans laquelle on recevra Cécile Lejeune. Elle est présidente de Kantar France, et Clément Monjou, directeur d'Alexa France pour Amazon. Sans oublier nos experts bien entendu, et vous retrouverez l'heure de chronique, le focus et l'actu. Restez avec nous, Focus Retail, c'est parti.
Focus Retail, l'interview.
Et on démarre cette émission avec vous, Béatrice Dotzenberg. Bonjour, bienvenue sur le plateau de BFM Business.
Alors, bonjour.
Vous êtes la directrice internationale des services Beauty Tech de L'Oréal. À mes côtés, nos deux experts cette semaine retail. Avec nous, c'est le retour de Jérôme Amrit. Jérôme, vous êtes vice-président Data et Retail Media chez Vusion. Et puis, notre experte qui est une habituée, c'est vous, Claire Koraleski. Vous êtes directrice générale de Media Performance. Alors, c'est toujours un salon très important pour L'Oréal. Cette année, ça l'est d'autant plus puisque vous annoncez une collaboration d'envergure avec OpenAI, une collaboration qui vise à emmener le parcours client vraiment à un niveau supérieur. Béatrice, expliquez-nous. C'est vrai qu'on parle depuis longtemps de commerce agentique. Là, on est vraiment passé à un degré supérieur.
Vous avez raison de rappeler que Vivatech est important pour L'Oréal puisque c'est déjà la 10e année depuis le début qu'on est présent. Avec un thème cette année, c'est vraiment l'Odyssée de la beauté, où on tire parti de plus de 100 ans d'expérience et de science de la beauté, de la créativité de nos équipes et de nos marques, et également cette expertise nouvelle en matière de data, d'intelligence artificielle, avec des nouvelles technologies. Et donc, dans ce cadre-là, on a annoncé ce matin ce partenariat avec OpenAI. Alors, pourquoi OpenAI? Chez L'Oréal, aujourd'hui, on est connecté avec plus de 1,3 milliard consommateurs, et on est toujours à la recherche de recrutement de nouveaux consommateurs. Et c'est important pour nous d'être là où les consommateurs sont. Par exemple, OpenAI aujourd'hui réunit plus d'un milliard d'utilisateurs par semaine. Et 5% de ces conversations qui se passent, par exemple, dans ChatGPT, sont autour de la santé et de la beauté. Et donc, c'était très important pour nous, leader mondial de la beauté, de faire ce partenariat avec OpenAI pour rentrer dans les conversations à plusieurs niveaux.
Alors, quand on parle justement de parcours augmenté sur ChatGPT, de quoi est-ce qu'il s'agit ?
Voilà, donc en fait, cette collaboration avec OpenAI, elle s'inscrit à plusieurs niveaux. En fait, au départ, les personnes vont poser des questions, par exemple, sur un produit. Et là, ce qui est important, c'est que l'information qui est donnée sur le produit soit exacte. Et on sait que ces LLM sont entraînés de différentes façons. Ils vont, par exemple, aller sur différents sites Internet. Et c'est très important, par exemple, quand vous posez des questions sur des ingrédients, des questions d'un point de vue scientifique, vous avez besoin d'avoir des références. La question de la confiance, elle est essentielle dans ces LLM. Et donc, c'est une façon pour nous de faire circuler l'information à OpenAI pour que ChatGPT donne des informations qui sont dignes de confiance pour les utilisateurs.
Alors, oui.
Ça, c'était le premier niveau, je dirais.
D'accord. Alors, c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup d'essayage de maquillage virtuel. Ça, c'est quelque chose que vous testez depuis un petit moment. Sauf que là, qu'est-ce qui change, en fait?
Oui, vous avez raison. Il y a plus de 120 millions services Beauty Tech aujourd'hui, chaque année, à travers le monde. On voit que les utilisateurs ont complètement adopté ces gestes, comme par exemple prendre son téléphone et essayer une nuance de rouge à lèvres avant de l'acheter, ou faire un diagnostic de peau qui va être 98% aussi précis que celui d'un dermatologue, grâce à toute la science et à l'expertise qu'on met derrière. Et donc, ces gestes, aujourd'hui, vous pouvez les trouver, par exemple, sur les sites de nos marques. Vous pouvez les trouver aussi sur les sites des distributeurs. Et maintenant, c'est important pour nous, voilà, d'amener pour la première fois ces services d'expérience virtuelle avec la marque Maybelline. qui est numéro un du maquillage aujourd'hui, et de pouvoir donner aux utilisateurs, parce qu'ils sont dans la conversation, ils vont demander quel est le meilleur maquillage, ils vont vouloir l'essayer avant d'acheter, et donc là on donne la possibilité de le faire dans ChatGPT.
Claire. Alors vous venez de parler du commerce agentique, à l'heure effectivement où ces agents interagissent avec les consommateurs, comment on redonne un rôle au point de vente, au retail?
Vous avez tout à fait raison. En fait, aujourd'hui, ce nouveau parcours du consommateur à l'ère de l'agentique, c'est un parcours qu'on imagine comme humain et technologique, comme digital, mais aussi physique. Et donc, on investit énormément aussi dans nos magasins. Par exemple, l'Institut Lancôme, on a développé en fait dans la maison Lancôme des Champs-Élysées une expérience sur la longévité, où vous pouvez avoir un diagnostic de peau fait par un ou une conseillère beauté qui vont vous faire un diagnostic de peau pour vous donner votre âge biologique versus votre âge chronologique, vous donner aussi des indications sur votre trajectoire beauté et vous donner des solutions pour pouvoir aussi atteindre vos objectifs.
D'ailleurs, dans ce point de vente, c'est vrai qu'on se rend compte que l'expérience prend vraiment aussi beaucoup plus d'importance que les produits qui sont quand même à certains endroits, mais c'est vraiment l'expérience qui prime.
Vous avez complètement raison, on parle vraiment d'expérience holistique de la beauté avec des produits et des services.
Jérôme.
Il y a une vraie course à la personnalisation en ce moment, mais dans cette course, il y a beaucoup de sollicitations du consommateur. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de fatigue du consommateur très sollicité par les algorithmes?
Alors aujourd'hui, on voit que les consommateurs recherchent les produits de beauté. Il y a énormément de recherches, c'est un marché qui est très dynamique. Et donc les gens recherchent ces produits de beauté et cherchent leur inspiration soit sur les réseaux sociaux, et là aussi on investit beaucoup sur les réseaux sociaux. On a un nouveau programme avec les créateurs qui s'appelle par exemple L'Orealista. Et de l'autre côté, il y a à la fois ce besoin ultra social de communauté, de partager des expériences et de la culture, et de l'autre côté il y a ce besoin d'ultra personnalisation avec des expériences de 1 à 1. Et c'est ça pour moi la magie d'une expérience conversationnelle, c'est vraiment cette possibilité d'avoir une conversation intime one to one, de 1 à 1, qui peut être ultra personnalisée pour vous et qui peut se poursuivre aussi évidemment après la conversation sur le point de vente.
Béatrice, il nous reste une minute, mais ce partenariat quand même avec OpenAI, c'est un enjeu stratégique pour vous qui s'inscrit dans votre feuille de route. C'est quoi l'ambition d'ici à 5 ans?
Alors, notre ambition, donc c'est une collaboration qui vient d'être annoncée aujourd'hui. On va pouvoir lancer ce service de Virtual Try-On cet été. On a déjà commencé des pilotes sur la publicité aux États-Unis, et au fur et à mesure que OpenAI déploie ses offres dans d'autres pays, nous allons pouvoir aussi les déployer. Nous travaillons avec eux aussi sur des modèles que l'on intègre dans Createch, qui est une plateforme de créativité pour nos équipes marketing. Donc, c'est un enjeu qui est vraiment très important dans la mesure où les consommateurs aujourd'hui adoptent l'intelligence artificielle et ses plateformes pour leur conversation beauté.
Et en un mot, très rapidement, on ne peut pas encore acheter directement sur ChatGPT.
Aujourd'hui, vous allez être redirigé vers des sites de retail.
Merci beaucoup Béatrice, restez avec nous. On passe tout de suite au focus de notre experte.
Focus Retail, le focus.
Alors Claire Koraleski, après la beauté avec L'Oréal, est-ce que la longévité, dont on vient un petit peu de discuter quand même, va devenir le prochain grand marché pour les distributeurs et les marques?
Alors oui, complètement. On vous l'avait dit, il y a effectivement l'anti-âge, il y a eu la minceur. On se rend compte qu'effectivement aujourd'hui, la longévité, c'est surtout comment je vais vivre mieux plus longtemps. On se rend compte que c'est vraiment une thématique. Alors elle est tout à fait justifiée. On sait aujourd'hui que c'est un marché considérable. En 2030, il y aura les plus de 65 ans vont représenter 30% de la population française. On parle d'un marché en termes de potentiel commerce de 2 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Donc, c'est effectivement une cible intéressante.
Qu'est-ce que ça va changer pour les enseignes?
Alors, on voit déjà des évolutions opérées. Là, le but, c'est plus de catégoriser peut-être l'alimentation, beauté, sport, mais peut-être d'aller plutôt dans je cherche l'objectif qu'il y a derrière. Je veux mieux dormir. Je veux préserver ma mobilité. Je veux bien vieillir. Et on voit un certain nombre d'initiatives. Walmart développe un écosystème associant pharmacie, télémédecine et services de prévention avec leurs produits au centre pour vraiment être sur effectivement le mieux vieillir. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, effectivement la maison de la longévité Lancôme qui effectivement est aussi sur cette approche, si vous voulez en peut-être
Oui, bien sûr. L'idée de cette expérience de la longévité de Lancôme, c'est de partir du diagnostic. Ensuite, avoir des expériences de produits qui sont complètement adaptés avec des molécules spécifiques et aussi des technologies avec la lumière, comme on présente aujourd'hui à Vivatech, des masques LED nouvelle génération.
Et qui vont arriver très prochainement. Finalement, cette promesse de la longévité, est-ce qu'elle est réellement crédible aujourd'hui ?
Alors effectivement, la technologie, c'est le mot d'ordre. On se rend compte qu'effectivement, la technologie, l'IA, nous permet d'avoir effectivement un certain nombre d'objets connectés qui vont nous permettre d'améliorer notre quotidien, de mieux dormir, de mieux respirer, de mieux gérer son stress. Je pourrais parler d'un bracelet connecté, Whoop. Je pourrais parler sur le site Samsung aujourd'hui. Il y a beaucoup d'exemples. Aussi, iSleep va plus loin, il va analyser par un matelas connecté comment vous dormez pour vraiment vous aider à une meilleure récupération, parce qu'encore une fois, quand on vit mieux, on vit plus longtemps.
Oui, tout à fait. On peut ajouter Weezings aussi si vous voulez aller faire un tour sur le salon. Alors, merci beaucoup, Claire. On passe tout de suite à une nouvelle rubrique qui est spéciale pour cette émission. On en profite, on est en émission spéciale. On passe tout de suite au plus. Et on accueille à présent sur ce plateau, toujours avec nos experts hein, bien sûr, deux nouveaux invités. Clément Monjou, bonjour, vous êtes directeur d'Alexa France. Et Cécile Lejeune,
bonjour.
Présidente de Kantar pour la France. Alors Cécile, Kantar dévoile justement sur Vivatech une nouvelle innovation avec l'intelligence artificielle. Ça s'appelle Consumer Twins. C'est une plateforme qui permet aux marques d'interroger en temps réel des jumeaux numériques qui sont construits quand même à partir de consommateurs réels. Comment ça fonctionne ?
Alors ça fonctionne tout simplement. L'avantage qu'on a chez Kantar, c'est qu'on a un panel propriétaire. Un panel, c'est des panélistes, hein, donc des gens comme vous et moi, qui répondent à des questionnaires. Et on a 170 millions de panélistes dans notre panel, partout dans le monde. Et ces panélistes, ils répondent à des questionnaires au minimum deux fois par mois sur plein de sujets différents. Donc parfois, je vais répondre à un questionnaire sur la cosmétique, mais une autre fois sur les tomates ou une autre fois sur les yaourts. Donc, en fait, on a une connaissance de chaque panéliste hyper profonde et hyper riche sur quasiment tous les secteurs. Et donc, à partir de cette connaissance d'un panéliste, on a créé son jumeau. Donc, un panéliste a un jumeau.
Qui lui correspond, entièrement.
Entièrement et qui, en plus, est nourri à chaque fois, enfin, enrichi à chaque fois que le panéliste humain répond à un nouveau questionnaire. Son jumeau est nourri. Donc en fait, on se retrouve avec des jumeaux numériques, mais vraiment très très riches de connaissances et très très justes par rapport à chaque humain du panel. Et donc effectivement, aujourd'hui, sur notre plateforme, vous pouvez interroger. Alors on a aujourd'hui plus de 7 millions de jumeaux
numériques
sur la plateforme.
Pourquoi se lancer maintenant spécifiquement ?
Alors en fait, nous, Kantar, on a des milliards de données. Donc, évidemment, on avait déjà du machine learning, du deep learning dessus. Évidemment, avec l'arrivée des LLM, on a plugué des LLM. Donc, on a déjà plus de 20 solutions qu'utilise l'IA. On avait au départ fait des persona AI. J'imagine que vous en avez entendu parler aussi. Bon, le persona AI, c'est on prend un type de personne et on crée son jumeau.
Ça, c'est ce qu'on appelle des clients virtuels, des clients synthétiques.
Oui, voilà. Mais c'est un type de personne. C'est une typologie qui est recréée. Et en faisant ça, on s'est rendu compte, mais en fait, c'est idiot, parce qu'on vaut mieux aller beaucoup plus profondément dans la connaissance de chaque personne et que chaque personne ait son jumeau. Donc, voilà, c'est en travaillant dessus qu'on s'est dit que c'était plus intéressant.
Jérôme.
Donc, si demain, je lance un nouveau produit, une nouvelle marque en rayon, qu'est-ce que ces Consumer Twins vont me dire que je ne pouvais pas déjà savoir avec les études déjà que vous faites depuis des décennies ?
Si c'est sur un nouveau produit, par exemple, il y a plusieurs choses. D'abord, nous, c'est Consumer Twins, j'y ai accès. Donc, vous êtes directeur marketing. Vous avez accès à la plateforme vous-même. Vous pouvez d'emblée dire quelle cible vous voulez adresser avec votre produit. Et là, vous pouvez simplement poser une question. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'étape questionnaire. Vous pouvez dire, voilà, je voudrais lancer un produit sur ce type de secteur. J'ai trois idées. Est-ce que tu peux me dire laquelle tu préfères et pourquoi ? Et l'autre intérêt aussi, c'est que dans notre plateforme, il y a les jumeaux numériques, mais il y a aussi les LLM, tous les LLM. Donc vous avez une réponse de jumeaux et de LLM. Et vous voyez bien d'ailleurs quelle est la même réponse, parce que les LLM pourraient vous dire « Ah ben, il y a un concurrent qui a fait le même produit, par exemple ».
Claire.
Alors, vous venez de parler effectivement de l'intérêt d'avoir des informations de façon individuelle. Ça veut dire que les personas, ils sont morts ?
Je pense que c'est complémentaire, en fait. Ça dépend de ce qu'on veut faire avec. Par exemple, si vous avez une segmentation, hein, chaque, que ce soit distributeur ou marque, a une segmentation, faire le persona de chacun de vos segments peut vous être utile. Donc, en fait, c'est que tout, c'est l'intérêt, hein, c'est que plein de choses sont complémentaires, donc c'est pas mort. En revanche, les jumeaux numériques et un jumeau par panéliste, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus riche. Donc, ça dépend pourquoi faire.
Ça dépend aussi, enfin, ça évite les mauvaises décisions d'un point de vue marketing. Justement, c'est quoi aujourd'hui le coût d'une mauvaise décision ?
Alors, ça, c'est une très bonne question. Ça dépend sur quoi ? Sur un lancement de produit, ça peut coûter très, très, très cher. Hein ? On est d'accord ?
Jérôme,
sur une pub télé, ça peut coûter cher aussi. Sur une pub Instagram, un peu moins cher. Donc, ça dépend, en fait, de quoi ? Alors, après, c'est une bonne question. Enfin, je pense que ça permet surtout d'explorer et effectivement de peaufiner ses besoins, ses envies, ses idées. Pour prendre une décision qui coûte très cher, je repasserai quand même par l'humain. Enfin, oui. Tout, à nouveau, tout va pas, heureusement, l'IA va pas remplacer complètement l'humain. C'est pareil dans la data. Donc pour une décision qui coûte très cher, à un moment, il faut quand même peut-être repasser par l'humain.
Merci beaucoup, Cécile. Alors, Clément Monjou, vous êtes directeur d'Alexa France. Alors, Alexa, c'est un assistant vocal qu'on connaît bien en France, qui est installé depuis 8 ans maintenant. Mais il y a quelques semaines, vous avez lancé un tout nouvel assistant, Alexa Plus, une version augmentée, plus complète, plus intelligente. Finalement, quelles sont les nouvelles fonctionnalités qu'on peut trouver avec Alexa Plus ?
En effet, Alexa existe depuis plus de 10 ans aux États-Unis, depuis plus de 8 ans en France. Et parmi les usages, il y a l'audio, la maison connectée, il y a aussi le shopping.
Oui.
Mais on était contraint par une technologie un peu ancienne. Et avec Alexa Plus, on amène un nouvel assistant qui est plus conversationnel, plus personnalisé, qui peut prendre des actions dans le monde réel. Et donc, ça révolutionne les usages pour nos clients. Et voilà, donc c'est ce qu'on a été heureux d'amener en France il y a 2 semaines.
Et on peut mener vraiment une action shopping de bout en bout.
Alors, c'est ça. Auparavant, l'usage shopping sur Alexa, ancienne version, c'était de recommander des piles, des couches, peut-être, en fonction des besoins. Là, aujourd'hui, on a une vraie approche conversationnelle et personnalisée. Donc, ce qui est intéressant avec Alexa Plus, c'est grâce à Alexa Plus, c'est 70 modèles qui, en temps réel, vont orchestrer la demande du client. Et ils vont être capables de naviguer entre des questions de culture générale, mais ensuite de le renvoyer vers un livre ou de l'aider sur la machine de café qu'il souhaite acquérir.
Alors moi, sur Alexa, je me souviens de Amazon Echo Show, qui était quelque part la première approche sur le grocery avec ce scan des EN. Alors je crois qu'il n'était pas sorti en France, il était présent qu'aux États-Unis. Là, vous avez l'ambition aussi de vous remettre sur l'alimentaire, sur ce côté parcours shopping.
Alors, Alexa Plus est disponible depuis 15 jours en France, donc ce n'est que le début. Mais là où Alexa Plus est disponible aux États-Unis depuis plusieurs mois, en effet, il est possible de faire ses courses chez Amazon, mais aussi chez d'autres providers, d'autres retailers. Donc vraiment, il y a cette expansion. Et ça, on pense que c'est possible grâce à notre nouvelle technologie qui permet cette découverte de catalogues massifs. Hein. On fait ses courses, c'est pas simple. Mais aussi, Alexa va avoir cette capacité. Avec cette personnalisation, elle va savoir si vous êtes, vous lui avez dit que vous étiez végétarien. Quand vous dites que vous avez des amis qui passent à la maison, on va être capable de vous trouver une recette, de la transcrire en liste et grâce à son agent, de faire des courses pour vous. Donc c'est vraiment cette nouveauté qu'Alexa Plus apporte.
Et ça va encore plus loin puisque ça permet aussi de réserver via une collaboration que vous avez avec The Fork, d'aller réserver directement une place dans un restaurant.
C'est ça. Prendre des actions dans le monde réel, c'est organiser sa semaine, c'est se connecter à sa maison, faire son shopping, mais en effet, on va vouloir peut-être faire un dîner et donc Alexa va être capable de prendre votre réservation pour vous dans votre restaurant préféré.
Vous amenez de la digitalisation dans le foyer. D'un autre côté, il y a les distributeurs qui investissent beaucoup aujourd'hui dans la digitalisation de leurs magasins, étiquettes électroniques, computer vision, qui créent de la donnée sur ce qui s'y passe. Est-ce que vous prévoyez d'intégrer cette donnée dans Alexa Plus pour que, depuis mon canapé, je puisse savoir que le produit il est disponible, il est en promotion en ce moment dans tel magasin et pouvoir donc prendre mes décisions?
Alors aujourd'hui en France, les achats sont possibles depuis Amazon dans un premier temps. Mais on a, en effet, tout ce type de mécanismes sont possibles avec notre nouvelle architecture. On voit très souvent nos clients mettre des alertes sur des produits. Ils disent « Ah, ce robot aspirateur me plaît beaucoup, mais rappelle-moi quand il passera à 500 euros, et en dessous de 500 euros, pardon. Et du coup Alexa va être capable de rappeler au client pour faire son shopping
et de faire des petites alertes pour
les alertes rappeler. Naturelles dans les conversations et suivant les préférences de l'utilisateur.
Alors ce service, ça reste hein, comme l'était Alexa, toujours pour les membres Prime, enfin en tout cas c'est gratuit pour les abonnés Prime, qui les abonnés Prime c'est un peu plus de 200 millions dans le monde. C'est un moyen aussi d'aller recruter justement de nouveaux utilisateurs.
Alors nous, on est convaincus que l'intelligence artificielle, notre conviction chez Amazon, c'est que l'intelligence artificielle est là pour être utile. Et on pense que Alexa Plus est la meilleure manière de vous faire profiter de la livraison gratuite, de trouver votre prochaine série sur Prime Video ou votre musique sur Amazon Music. Donc pour nous, c'est vraiment ce fil rouge qui va emmener l'utilisateur et le permettre de découvrir ses contenus et de lui rendre service. C'est vraiment, ça va en lien avec notre vision de le meilleur assistant personnel au monde.
Vous avez une projection que vous visez en France, que vous comparez par exemple aux États-Unis. Combien vous avez de nouveaux utilisateurs aux États-Unis depuis l'utilisation ?
Nous, notre conviction, c'est que le service français, ce n'est pas une simple traduction du produit américain. C'est vraiment, elle est capable de comprendre vos habitudes, vos préférences. C'est une touche intéressante pour tous les Français.
Merci beaucoup, merci. Clément Monjou, d'avoir été avec nous. Merci également, Cécile Lejeune.
Merci.
Sans plus attendre, on passe au pitch de notre start-up.
Focus Retail, le pitch de la start-up.
Et pour le pitch de la start-up, on accueille Marc Malmaison. Bonjour, vous êtes le fondateur et président de Herman Sings. Alors, c'est une entreprise normande. Vous avez développé une IA qui aide les entreprises à mieux prévoir, à mieux organiser, optimiser finalement la supply chain. Sachant qu'aujourd'hui, quand même, 80% des entreprises planifient encore manuellement toutes ces actions-là. Il y a tout de même de nombreux outils logistiques qui existent déjà dans le marché. Comment est-ce que vous vous différenciez ?
Bah d'abord, bonjour. Et la différence sur le marché, c'est que les outils qui existaient avant ne prenaient pas les données exogènes. Donc, ce n'était pas vraiment des outils d'IA, c'était des outils de... On va tenter de prédire l'avenir, mais sans vraiment s'alimenter de données qui viennent de l'extérieur. Par exemple, la météo, c'est des choses qui étaient déjà prises, mais on va pouvoir rajouter beaucoup de données, genre la force du vent, si on monte sur un toit, est-ce qu'il y a eu de la glace, est-ce qu'il y a du verglas, ce genre de choses. Mais on peut aussi, par exemple, avec le CHU de Rouen, on va rajouter les données d'épidémie. Est-ce qu'on est capable de prévoir une gastro-entérite en Australie ? 4 mois plus tard, elle va arriver en France. Donc on peut organiser toute la supply chain et ça change tout. Ça change tout parce qu'on est plus réactif et on anticipe mieux.
Là, vous êtes en plein dedans, justement, avec le conflit au Moyen-Orient.
Exactement.
Ça, vous avez réussi à anticiper pour certaines entreprises ?
On n'est pas dû, en fait. On va pouvoir réagir très vite. Les IA vont s'adapter, comprendre ce qui se passe. Mais non, on n'est pas capable de vous dire qu'il va se passer quelque chose. Par contre, là, on a un facteur. On va prendre le VIX, notamment en bourse. C'est un facteur de la peur et on va pouvoir contrôler, voir ce qui se passe. Et si le VIX monte très fort, probablement qu'il se passe quelque chose. Donc, on n'est pas devin, mais on réagit très vite. Et les IA, elles s'adaptent très vite. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des outils qui, non seulement sont capables de bien prévoir, mais quand on n'est plus capable de prévoir, de réagir très vite.
Jérôme.
Oui, alors, on comprend bien que c'est un outil d'optimisation au quotidien, mais est-ce que ça peut aller jusqu'à amener à faire des choix différents de fournisseurs tout le long de la chaîne ?
Oui, totalement. En fait, si on laisse l'IA totalement prendre le contrôle, elle va choisir la meilleure performance, donc le meilleur fournisseur pour le meilleur prix au meilleur moment. Et pas forcément le choix d'origine de l'humain. Parce qu'en fait, l'humain, il va avoir 7, 8, 10 variables en tête. L'IA aura 25 000 variables, donc forcément on n'aura pas la même chose. Et c'est un peu comme les échecs aujourd'hui, la stratégie change totalement parce que elle n'a pas le même fonctionnement que le cerveau humain, et du coup on a trouvé des nouvelles façons de jouer. C'est la même chose un peu pour les achats, c'est une nouvelle façon de jouer.
Alors c'est vrai que vous nous avez parlé d'un hôpital avec lequel vous travaillez avec tous les secteurs. Comment ça se passe plutôt pour la grande distribution?
Alors ouais, nous on travaille aussi avec les négoces de matériaux, donc en gros les plaques de placo, la laine de verre, donc ça c'est des choses que les gens vont vouloir acheter. Et c'est la même chose, le facteur numéro un, c'est la météo. Si vous n'avez pas de météo dans un système de prédiction, vous perdez entre 15 et 20% de fiabilité, donc c'est hyper important. Mais en plus, je dirais, tout ce qui est négoce de matériaux, c'est un métier extrêmement complexe avec des petites marges. Donc, optimiser l'empreinte carbone, c'est important. Optimiser les coûts, c'est important. Il faut faire attention à tout. Et sans outils, finalement, d'optimisation, et avec de l'IA, vraiment, on n'est pas capable de faire les choses simplement. Enfin, ça demande beaucoup de temps, même.
Alors, effectivement, c'était toujours le dilemme de se dire que comment je réagis entre du surstock ou de la rupture. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, l'IA et votre approche peut permettre d'être le plus juste ?
Ouais, on a une phrase un peu magique disant « le just in time, it's just too late ». Parce que se dire, ce qu'on veut, c'est être le plus proche de la crête. Donc, soit on veut un peu plus de stock, soit un peu moins, selon si on a un problème de trésor ou si on veut plutôt servir le client. Et plus on va être proche d'être fiable de la prévision d'anticipation, plus finalement on réduit le stock au plus proche possible, parce qu'on va prendre le plus de risques possible. Et c'est l'objectif de l'IA, hein, c'est vraiment de se dire je vais diminuer les stocks, je vais réduire les sécurités que je mets partout, parce que avec les événements qui se passent depuis quelques années, on a augmenté les stocks très largement partout, sauf qu'on augmente les coûts, et en fait les structures aujourd'hui elles ont beaucoup de mal avec ça. L'IA c'est une sorte de révolution, parce que ça peut vraiment de dire on va s'approcher de la crête le plus finement possible.
Aujourd'hui vous avez combien de clients?
On a 11 clients aujourd'hui, on va à des sociétés qui font plusieurs milliards, à des sociétés qui font quelques millions, donc on a vraiment un peu de tout, quoi.
Et votre croissance?
Là, on fait 30% tous les ans sur nos chiffres d'affaires et on vient d'ouvrir notre nouvelle branche aux États-Unis, donc on pense que ce sera notre premier marché.
Merci beaucoup, Marc Malmaison, d'avoir été avec nous. On passe tout de suite à l'actu du salon. Alors, Jérôme Amrit, vous êtes dissipé, restez avec nous. Cette année, on l'a vu, Vivatech change de dimension, 30% de surface en plus, 1000 startups supplémentaires. Cette multiplication des acteurs, finalement, et des moyens, c'est révélateur d'une accélération. Jérôme, le retail est-il en première ligne ?
Tout à fait, complètement en première ligne. On ne parle plus d'adoption, on parle d'intégration native. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a 89% des distributeurs aujourd'hui qui utilisent ou testent activement l'IA en 2026. Alors les consommateurs eux-mêmes sont demandeurs. D'après une étude d'Opinionway, il y a plus de 73% d'entre eux qui déclarent que ces outils pourraient améliorer leur parcours d'achat, leur expérience d'achat au quotidien. Puis on a vu Kantar tout à l'heure, qui fait le lien finalement entre ses distributeurs et ses consommateurs, qui a lancé Consumer Twins avec tous ces jumeaux numériques qui permettent de simuler en temps réel des décisions de consommation. Donc c'est plus une expérimentation, c'est une infrastructure qui est pleinement intégrée dans toute la chaîne de valeur du retail.
Alors c'est vrai, ce qui frappe à Vivatech cette année, c'est que l'intelligence artificielle, ça touche dorénavant l'expérience physique de l'accueil au parcours d'achat. On l'a vu notamment avec L'Oréal. Comment le point de vente se réinvente-t-il concrètement cette année ?
Il y a deux mouvements qui sont en apparence opposés, mais qui sont complémentaires. Il y a bien sûr de l'automatisation. Alors, je vais prendre des exemples chez LVMH, par exemple. Il y a Céline qui dévoile ici Célia, un agent IA au service des équipes de vente en magasin. Aussi, Christian Dor Couture, qui met des agents IA qui peuvent agir pour le compte du client pendant tout leur parcours d'achat. Mais il y a aussi de l'humain. Là, il y a une start-up, Vocast, qui recrée de la voix humaine dans les interfaces numériques, finalement pour remettre de la conversation là où l'automatisation pouvait risquer de la faire disparaître. Donc le magasin 2026, c'est une double ambition, c'est plus d'intelligence mais pas moins d'humain.
Et très rapidement, Jérôme, on a vu que l'Allemagne était mise à l'honneur justement cette année. Qu'en est-il de notre modèle à l'échelle européenne ?
Il se développe, il reste encore du chemin à parcourir. Il n'y a que 30% des retailers qui intègrent pleinement l'IA dans le parcours, dans l'expérience client. Mais tout le monde reconnaît qu'il y a beaucoup de marge à gagner. Donc c'est en cours de construction, mais les fondations sont bien et bien posées.
Merci beaucoup, Jérôme, pour cette expertise. Merci à vous d'avoir été avec nous et à vous également de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission de Focus Retail. Je vous souhaite un excellent salon et un excellent week-end.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.